La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge jusqu'à 14h et chaque jour on écoute le monde changer. On le fait changer ensemble grâce à nos patrons, nos patronnes, grâce à vos initiatives et à votre audace. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors on connaît la rentrée des classes et rentrée rime aussi. Avec livres, chaque année au mois de septembre, des centaines de livres arrivent chez les libraires. Comment se présente ce cru 2020? Quel a été l'impact du Covid? On en parle jusqu'à 14h avec Manuel Carcassonne, c'est le patron des éditions Stock, une des plus grandes maisons d'édition de France.
À la une en effet Emmanuel, la rentrée littéraire, les livres ce sont aussi les librairies. Direction Bordeaux dans la librairie Mola, elle a 124 ans. La librairie Mola, c'est notre saga du jour, rendez-vous à 13h30.
Alors ils ont seulement quelques mois d'existence, mais ils ont de l'espoir et surtout de l'envie à revendre. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur a 1 minute 30 pour tenter de vous convaincre et de convaincre notre grand patron du jour. Aujourd'hui, c'est L'Indiscret, un site en ligne dédié aux meubles et à l'art et c'est 100% français.
Demain, au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de travailler. Chaque jour, en fin d'émission, on découvre une entreprise qui s'adapte dans notre société en pleine transformation. Aujourd'hui, on vous a trouvé une entreprise qui offre des masques à ses salariés, des masques audio pour une meilleure qualité de vie au travail et on leur passera un coup de fil.
Et bienvenue à tous dans La France bouge, on est ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors, plus de 500 nouveaux romans et récits, français et étrangers, sont arrivés ces derniers jours chez nos libraires. C'est la traditionnelle rentrée littéraire. Alors, parmi les rituels, Amélie Nothomb avec cette année Aerostat, on parle aussi beaucoup du dernier Emmanuel Carrère Yoga ou Les démons de Simon Liberati chez Stock.
Et justement, bonjour Manuel Carcassonne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct dans notre studio Europe 1. Vous êtes le PDG des éditions Stock. Un total de 511 nouveaux romans pour cette rentrée littéraire d'automne, dont 11 rien que chez Stock. Comment vivez-vous cette rentrée si spéciale chez Stock ?
Je pense que la rentrée n'a de sens que si on la précise par rapport à ce qui s'est passé avant, si vous voulez, parce que on a une année quand même un peu particulière.
C'est pour ça qu'elle est spéciale.
Voilà,
oui.
Tous les ans, on se plaint de la surproduction. Mais cette année, c'est presque, je dirais, encore un autre problème. Donc, il faut rappeler à vos auditeurs, s'ils nous écoutent, qu'avant l'été, on a eu, donc mars, si vous voulez, du jour au lendemain, toutes les librairies françaises ont fermé. Il n'est absolument plus rien resté de la librairie française physique. Il est resté encore une possibilité de commander online, mais enfin c'était quand même très très réduit puisqu'il y avait des problèmes aussi de transporteurs, de postes, etc. Donc en fait du 17 mars jusqu'à à peu près fin mai, la vie de la librairie n'a pas repris normalement. Il y a même des grands libraires comme la Fnac qui n'ont véritablement repris que courant juin, assez tardivement. Donc pendant cette période, il y a quand même eu, si vous voulez, une grande inquiétude qui a évidemment touché tous les éditeurs, les auteurs, etc. La presse en est nettement mieux tirée puisque vous n'avez pas cessé de travailler. Et puis ensuite, il y a eu un boom. Il y a eu un boom que personnellement j'avais, je dois dire, un peu anticipé, qui était au mois de juin et de juillet.
On a eu. Quand vous dites boom, ça veut dire quoi ?
Eh ben, une nette progression du nombre de livres vendus par rapport à l'année précédente.
Vous avez pu combler alors les deux mois ?
Alors, on n'a pas tout à fait comblé, mais certains libraires... Alors, si je ne peux pas donner de chiffres très précis, c'est que certains libraires ont fait plus 30, certains libraires ont fait plus 60. Et nous, on a réduit la production, mais on a eu un mois de juin considérablement supérieur au mois de juin de l'année d'avant.
Est-ce que du coup, malgré tout, cette rentrée si particulière, comme le disait Elisabeth à l'instant, elle est encore plus importante cette année parce qu'il faut continuer de se rattraper et du coup, fallait sortir encore de meilleurs livres, fallait être encore plus présent, fallait rattraper le temps perdu.
Oui, alors je pense qu'il y a eu un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de sidération. Cet effet de sidération a été suivi d'un effet de précaution. On a coupé nos programmes. Nous, on a par exemple diminué d'à peu près 70% de notre production en mai-juin. Du coup, si j'ose dire, on s'est concentré, on a eu plus de temps, on a eu plus de confort de sortie de ces titres-là qui ont globalement bien marché. Mais évidemment, les auteurs, vous savez, ce ne sont pas des fruits et légumes qui attendent patiemment au frigidaire qu'on les ressorte. Hein. Ils sont assez remuants, particulièrement en littérature. Donc ils n'attendent pas forcément. Il y a eu quand même pas mal d'auteurs qui m'ont dit, mais mon Dieu, moi mon livre, vous le deviez le publier en mars, publiez-le à la rentrée, etc. Donc comme j'ai bon cœur, j'ai cédé à certains.
Et à qui, par exemple ?
Alors, Alexandra Dedzi, par exemple, qui est une jeune écrivaine que nous publions, d'un deuxième livre, qui est par définition quand même un peu fragile, qui est dans la rentrée. Mais nous avons aussi eu, par définition là aussi, des opportunités qui n'étaient pas, qui n'étaient pas prévisibles, comme par exemple l'extraordinaire journal que tient l'écrivain chinois Fang Fang à Wuhan. Ça s'appelle Wuhan ville close.
Et on en a parlé sur Europe 1.
Voilà, l'Obs lui consacre 5 pages cette semaine. Bon, bah ça, par exemple, on n'allait pas attendre 2 ans.
Justement, le Covid est-il devenu un thème propice à l'écriture, c'est-à-dire que ça a inspiré les auteurs?
Moi, je me suis refusé à faire les journaux de confinement parce que voilà, on en avait tous un peu.
Au-delà du journal de confinement, mais l'inspiration, oui. La période que nous vivons, qui est une période inédite.
Oui, je pense que la pandémie va entrer. Alors attention, parce qu'en littérature, le temps est long, hein, quand même. La pandémie va entrer très probablement comme une des thématiques, l'enfermement qui parfois est une servitude et parfois au contraire une libération, hein, pour certains. Donc nous, on a rajouté donc ce journal Wuhan de Fang Fang. On a rajouté un livre de Martin Hirsch, le directeur de la PHP, sur la période actuelle. Donc tout ça crée, si vous voulez, des choses qui ne devaient pas exister. Philippe Claudel, écrivain connu et renommé depuis longtemps, m'a téléphoné pour me dire que pendant la pandémie, il avait écrit un court roman qui s'appelle Fantaisie allemande. Je n'ai pas lui demandé d'attendre un an.
Évidemment.
Et en plus, nous reversons les bénéfices du livre à la librairie.
On va continuer à parler de cette rentrée littéraire si particulière cette année. Vous restez avec nous, Manuel Carcassonne, PDG des éditions Stock.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et la France bouge, où on parle aujourd'hui de la rentrée littéraire avec notre patron du jour, Manuel Carcassonne, le PDG des éditions Stock, qui nous accompagne jusqu'à 14h pour parler de cette question, comment on s'adapte dans cette rentrée si spéciale.
Et bonjour Patricia Duliscoué.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Storylab. Storylab, c'est une maison d'édition. Vous corrigez, vous relisez aussi des manuscrits, vous travaillez également avec des maisons d'édition et vous existez depuis 10 ans. Comment se passe en ce moment pour vous aussi, même question, cette rentrée si spéciale en termes de livres et de sorties de livres, de parutions?
Eh bien écoutez, la rentrée finalement se passe de tout à fait normalement, puisque les livres, on a des belles parutions qui sortent, en particulier sous notre marque Storylab, qui travaille avec des professionnels. On va sortir un livre qui va être présenté avec une keynote à Station F, c'est le patron de Alan, une société qui révolutionne un peu le monde de l'accès à l'assurance santé et qui va parler de sa philosophie d'entreprise très particulière dans un livre. Donc ça, ce sont des sujets justement assez adaptés à cette époque, puisque dans la philosophie de cette entreprise, il y a le travail à distance, en décalé, etc.
Vous faites beaucoup d'auto-édition. Est-ce que justement, là aussi, pendant cette période de confinement, vous confirmez que ça a été propice à la réflexion personnelle et donc à l'envie de se livrer, à l'envie d'écrire?
Oui, bien sûr. On a reçu, comme tous les éditeurs, beaucoup de journaux de confinement. Donc on en a publié pas mal, sous notre marque Iggy Book, là pour le coup, qui est de l'auto-édition. Et en particulier, on a un livre que j'aime beaucoup, ça s'appelle La Dame du Zandam. Le Zandam, vous savez, c'est ce bateau qui a erré pendant des semaines autour de l'Amérique latine parce que personne ne voulait les accueillir. C'était un grand bateau de croisière. Et donc, cette femme qui était à bord a écrit son journal de bord, en fait, qu'elle a sous-titré d'ailleurs « Écrire pour tenir », dans lequel elle raconte voilà, l'ambiance, etc. Donc ça, ce sont des livres qui ont pu être sortis très rapidement, parce qu'en auto-édition, on a des délais de publication qui sont rapides. En fait, en 2 mois, le livre peut être publié. Voilà, c'est ce type de livre qu'on a reçu.
Et quand vous dites qu'il est publié, ensuite, on peut le trouver où?
Alors, on le trouve chez tous les libraires et chez tous les libraires en ligne, à la fois en papier et en numérique, puisque ça fait partie de notre façon de travailler. En fait, on est partenaire de Hachette pour la publication papier, avec une spécificité, c'est qu'on travaille en impression à la demande. ce qui est d'un point de vue économique et écologique plutôt mieux pour des livres qui sont souvent à des tirages moyens ou petits. Les livres sont imprimés en France, à Maurepas, pas à la demande, c'est-à-dire que quelqu'un va sur Fnac.com, commande le livre, 2 heures après, il est dans les fichiers d'achète, qui va l'imprimer, l'envoyer au libraire ou au lecteur.
Et souvent, vous éditez des gens qui, justement, n'ont peut-être pas eu le plaisir d'avoir été édités par Stock. Vous leur permettez d'avoir une visibilité que parfois les maisons d'édition ne peuvent pas se permettre, parce que justement, comme vous le dites très bien à l'instant, Patricia Dulis-Couès, ce sont parfois de tout petits tirages.
Oui, bien sûr. Tout l'intérêt, en fait, est de s'adapter, en fait, au fur et à mesure du succès ou non du livre. Lorsqu'il y a des commandes importantes, on va faire des tirages plus importants. Mais si le livre stagne, on n'aura pas gâché du papier. Ce ne seront pas des livres qui partiront au pilon. Ils ne seront imprimés qu'à la demande. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la librairie, en fait, pour l'auto-édition, n'est qu'une partie de l'iceberg, puisqu'en fait, les auteurs souvent nous achètent leurs propres livres et vont, de façon assez entrepreneuriale, en fait, c'est le principe de l'auto-édition, aller vendre même leurs livres. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 1000 événements littéraires, que ce soit des salons régionaux, thématiques, etc., qui sont des très belles occasions pour les auteurs d'aller rencontrer leur public.
Occasion un petit peu compliquée en ce moment. La foire de Francfort a été annulée pour le livre et la plupart des salons du livre sont annulés. C'est très compliqué de faire des signatures en ce moment dans les librairies. En tout cas, il y en a moins. Oui. Ça doit respecter des normes. Est-ce que du coup, ça complique un business model d'une certaine manière chez vous, parce que c'est encore plus important que quand on s'appelle Amélie Nothomb ou autre.
Bien sûr, mais il y a beaucoup d'événements littéraires qui sont des tout petits événements en fait très locaux, et ceux-là ne sont pas toujours annulés, donc il y a toujours cette possibilité. Et nous, en termes de business model, c'est vrai que la vente de livres n'est pas notre seul revenu, ce sont aussi tous ces services qu'on vend aux auteurs.
Manuel Carcassonne, vous êtes notre grand patron du jour, PDG des éditions Stock. L'auto-édition, ça peut être un nouveau modèle économique concernant la littérature ?
Alors, je dirais que c'est un autre modèle, parce que le modèle, qui n'est pas forcément le bon d'ailleurs, hein, mais c'est le nôtre, c'est un modèle de choix. Alors, je crois beaucoup au rôle de l'éditeur dans des maisons traditionnelles comme la nôtre. Hein. Stock est la plus ancienne maison d'édition française, créée en 1708, donc ça ne nous rajeunit pas. Je crois la notion de choix. On reçoit entre 10 et 20 manuscrits par jour. Papier, plus qu'on reçoit en fichier, que généralement d'ailleurs je n'ouvre pas, parce que je cime que je ne suis pas là pour faire le secrétariat des gens qui nous envoient leurs
fichiers.
Donc si
les auteurs sont en train de vous écouter, voilà, surtout
jamais,
vous envoyez en papier.
Papier, 21 rue du Montparnasse, 75006. Et on essaye de lire péniblement, parce que c'est évidemment quand même, tout ça est très long, et on n'est pas si nombreux, toute cette production qui arrive. Mais la notion de choix est très importante. Lorsque je découvre, j'insiste là-dessus, lorsque je découvre un auteur, la jeune Lynn Papin, récemment, par exemple, qui a eu beaucoup de succès, la romancière
avec
Diane Masloum, qui est aujourd'hui chez Lattès, ou Alexandra Dedzi, par exemple, dont je parlais, c'est un choix. Je fais un choix.
On parlait des salons du livre. Alors, je ne veux pas rentrer dans votre intimité, mais vous êtes arrivé ici avec votre valise, parce que je crois que vous partez au Salon du Livre de Nantes, où vous en revenez.
De Nancy.
Ça reste des moments, pour vous aussi, maison d'édition, totalement incontournables et très compliqués à tenir en ce moment.
Oui, j'ai beaucoup de... J'ai vraiment une pensée de sympathie, d'amitié pour les libraires qui sont souvent partenaires là-dedans et pour les organisateurs de salons du livre qui s'arrachent les cheveux, croyez-moi. Quand vous êtes obligé de faire un salon du livre, vous n'avez plus le droit de mettre les gens sous une tente, dans quelque chose en dur, et que vous êtes obligé de faire ça à droite et à gauche, et ça n'est pas facile. Nancy, qui est le plus gros salon du livre de la rentrée avec Brive, a fait une solution différente. Mais par exemple, la foire de Brive, vous savez que cette foire dans l'ouest de la France, sud-ouest de la France, qui est une foire colossale, hein, parce que c'est des dizaines et dizaines de milliers de personnes, en plein hiver, donc en novembre, ça ne va pas être simple. Donc ils vont devoir faire autrement.
En tout cas, merci Patricia Dulis-Coué. Je rappelle que vous êtes la présidente de Story Lab. Merci d'être venue nous présenter votre entreprise.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est toujours avec Manuel Carcassonne, le PDG des éditions Stock, dont on a découvert que c'était la plus vieille maison d'édition de France. Vous disiez tout à l'heure que tout s'est arrêté, hein, les librairies fermées pendant le confinement. Est-ce que malgré tout, on a beaucoup lu pendant cette période. Est-ce qu'on a lu des choses différentes? Je vous pose la question parce que je me souviens d'un reportage il y a quelques semaines sur Europe 1 qui disait que, par exemple, les gens s'étaient beaucoup tournés vers le développement personnel dans leur lecture et que la façon de lire avait évolué pendant cette période. Est-ce que vous l'avez constaté, vous aussi? Là, je parle plus presque aux spécialistes du monde de l'édition.
Je dirais que c'est difficile de quantifier. Ce que je peux répondre, c'est que je pense qu'il y a eu un effet de stupéfaction pour beaucoup de Français. Donc, il y a des gens qui n'ont pas forcément réussi tout de suite à se concentrer. Parce qu'il y avait de l'inquiétude. Hein. On oublie vite, mais il y avait beaucoup d'inquiétude dans les 15 premiers jours. Après, je pense que oui. Je pense que les gens se sont réfugiés là où ils pouvaient se réfugier. Et ce que je voudrais dire avec insistance à cette antenne, c'est que le livre est une valeur refuge. C'est-à-dire le livre est resté quelque chose qui, contrairement, vous l'avez vu, au spectacle vivant qui a été hélas naufragé, au cinéma qui a été plus difficile, et même à une partie du journalisme pour d'autres raisons, il y a eu pas mal de grèves à cette période-là, on ne trouvait pas toujours les journaux, eh bien, le livre est resté une valeur refuge. S'il y avait un meilleur accès à l'objet livre au moment du confinement, à mon avis, les Français auraient probablement acheté des livres pendant le confinement lui-même, au lieu de beaucoup après.
Est-ce que vous avez regretté que les libraires refuse de rouvrir, alors que Bruno Le Maire, quelques jours après l'annonce du confinement, a dit « Mais si, c'est un commerce indispensable, vous pouvez vous organiser, vous pouvez rouvrir. » Sur l'antenne d'Europe 1, le patron du syndicat des libraires a dit « Il est hors de question, je ne vais pas faire courir trop de risques à mon personnel. » Vous avez regretté, malgré tout, qu'il n'ouvre pas ?
Je ferai une réponse très franche, là. Ou à titre personnel, oui, mais je peux comprendre le syndicat des libraires tout simplement parce que ça n'est pas si facile d'ouvrir un négoce quel qu'il soit, de le faire marcher alors même qu'il y a un danger.
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque, on était dans une incertitude encore plus importante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Côté support, est-ce que pendant cette période, on a lu plus de livres sur tablette ou d'autres supports pendant cette période du confinement?
Là aussi, difficile à quantifier. Ce qu'on sait des chiffres qu'on a eus après, c'est-à-dire grosso modo, vous voyez, au mois de mai, il y a eu un petit pic pour les best-sellers, en fait, pour les livres qui se vendent le mieux, il y a eu une augmentation du pourcentage.
Sur les tablettes.
Sur les tablettes.
Manuel Carcassonne, si je vous demande si vous connaissez la librairie Mola, vous me répondez quoi ?
Que je garde un merveilleux souvenir de mon dernier déjeuner avec Denis Mola et sa fille et son équipe, car nous avons bu 5 délicieux vins.
Je croyais que vous aviez découvert 5 merveilleux livres à boire avec modération, ce que vous consommez.
Évidemment, ça tombe bien parce que nous sommes avec Mathilde Mola. Bonjour Mathilde Mola.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci à vous, nous sommes ravis. Vous êtes la 5e génération de la librairie Mola. Alors la librairie Mola, pour nos auditeurs d'Europe 1 la connaissent, grâce à Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux. La librairie Mola, ce sont près de 2 millions de livres vendus chaque année, 2700 m² pour arpenter les rayons. Elle a été créée en 1896 et c'est votre arrière-grand-père qui débarque du Cantal et qui rachète une librairie à ses cousins. À l'origine, elle s'appelait la librairie Bourlange. J'ai tout bon ?
Exactement. Il avait 25 ans à l'époque, donc il était relativement jeune. Et il a repris la librairie, donc il y avait déjà une activité de livres. Il y avait également de la papeterie, de la maroquinerie. Et il avait lancé une petite activité d'édition. Mmh. Et il a eu du flair. En 1928, il décide de déménager la librairie pour la mettre à son emplacement actuel au niveau de la rue Porte-Dijot, qui est un des axes structurants de la ville de Bordeaux. Et on y est toujours. Et donc, les clients peuvent arpenter le magasin originel qui est encore là depuis 1928.
Et justement, qu'est-ce qui reste de cette histoire ? Moi, j'ai eu la chance de faire une délocalisation d'Europe 1 dans vos locaux. J'ai été impressionné par la grandeur et par la modernité, puisque vous êtes en ligne là avec nous, je crois, depuis même votre studio radio au sein de la librairie Mola. Qu'est-ce qui reste de l'ambiance de votre arrière-arrière-grand-père ?
Je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans la famille, c'est être autodidacte, donc se passionner pour beaucoup de choses et les apprendre, et puis surtout la curiosité. Ça, c'est quelque chose qu'on partage dans la famille depuis plusieurs décennies, et c'est ça qui fait que la famille et la librairie se met en mouvement pour suivre l'air du temps, et voir même le précédé. Mon père a été assez visionnaire. En 1982, il était interviewé dans le cadre d'un journal sur France 3. Mmh. Et il disait, nous allons lancer des rencontres. Et ces rencontres seront diffusées en direct ou en différé sur des écrans dans la librairie. Et c'était il y a 40 ans.
C'était il y a 40 ans. Votre papa, donc, est pièce majeure hein, dans le développement de votre librairie. Et à l'époque, c'est déjà une institution, hein, la librairie Mola.
Ah, tout à fait. C'est vrai qu'on va dire que chaque génération a su prendre la vague. Précédemment, donc, son père, donc mon grand-père William, avait déjà agrandi, la surface de vente. Il s'était ouvert sur une librairie généraliste et diversifiée. Et c'est vrai que mon père s'est inscrit là-dedans et il a permis il a engagé d'énormes travaux pour rendre la surface accessible. Donc le bâtiment est d'un seul tenant. Et surtout, où mon père a été aussi visionnaire, c'est sur la mise en place d'un site internet dès 2001.
Dès le 2001, vous prenez ce tournant du numérique, alors que ce n'est pas forcément évident, hein, surtout quand on vient de cet univers-là. Et immédiatement, vous vous lancez sur les réseaux, vous organisez les événements, les rencontres avec les auteurs, dès le début.
Tout à fait. En fait, alors au tout début, on a capté les conférences. Donc, on a des pépites qu'on conserve et qu'on va valoriser prochainement, mais des rencontres-événements qui datent un peu. Mais effectivement, à présent, toutes nos rencontres sont filmées, diffusées en direct sur notre page Facebook, YouTube et ponctuellement aussi sur Twitter.
Alors, Elisabeth le disait tout à l'heure, Mathilde Mola, vous êtes la cinquième génération de la librairie Mola. Vous nous vantez le développement réalisé par votre papa. Ça met une sacrée pression. Vous avez envie de faire quoi, vous ? C'est quoi votre rêve ? Si je vous dis, allez, dans 50 ans, elle ressemble à quoi la librairie Mola grâce à vous et à votre famille ?
C'est un sacré défi que vous me posez là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai grandi vraiment dans les livres et avec les livres. Et je suis très attachée à défendre les livres. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir évoluer avec son temps. Mmh. Moi, ça fait un an que je suis revenue dans l'entreprise familiale. J'ai eu des expériences professionnelles à l'étranger, notamment. Et justement, ça fait. Aujourd'hui, je fête mon premier anniversaire à la librairie avec vous, voyez. Donc, je suis revenue avec mes cartons de livres de l'étranger. Et voilà, l'idée, c'est de poursuivre l'aventure parce que c'est vraiment une très belle aventure familiale.
Quelle a été votre plus belle rencontre avec les auteurs au sein de la librairie Mola, puisque vous avez été avant-gardiste là-dessus, donc il doit bien vous rester quelques souvenirs marquants.
Alors, c'est vrai que moi, j'avais été marquée. Par un épisode assez cocasse où, à l'époque, notre salle de rencontre était au troisième étage. Et Sylvain Tesson, qui était déjà assez téméraire, au lieu d'emprunter l'escalier, était passé par les murs, par l'extérieur. Donc ça m'avait assez marqué. Et là, je vous dirais, celle qui m'a marqué, c'est tout simplement celle qu'on a organisée hier avec Camille Laurence, qui nous a fait l'honneur de reprendre les rencontres à la librairie. Donc pour nous, c'était très positif, après l'arrêt du Covid, de pouvoir reproposer des rencontres avec les auteurs.
Après l'arrêt du confinement.
Exactement, oui. L'arrêt du confinement, reproposer donc des rencontres avec les auteurs et les rendre accessibles sur les réseaux sociaux.
Manuel Carcassonne, je rappelle que vous êtes le patron des éditions Stock, hein, des librairies comme ça, on en a dans pas mal de villes en France, même si celle-ci est sûrement l'une des plus belles et l'une des plus grandes de France, avec une histoire vraiment extraordinaire. Malgré tout, toutes ces librairies aujourd'hui sont concurrencées par les sites en ligne. Vous avez cité tout à l'heure la Fnac, on pourrait bien évidemment citer Cdiscount ou Amazon. Est-ce qu'ils vont tuer nos libraires d'après vous ?
Je ne crois pas, mais je pense que la librairie Mola, et je salue Denis Mola et Mathilde qui vient de s'exprimer avec clarté, c'est justement la chance de la librairie, c'est la prescription, c'est le libraire en lui-même, que ce soit un homme ou une femme, c'est le stock, c'est l'animation qui, dans certaines librairies, est quotidienne. Alors c'est peut-être parfois un peu trop parce qu'on n'arrive pas toujours à tenir le rythme.
Mais ils quand vous mettent sous pression, c'est ça que vous nous dites.
Quand vous allez acheter des livres sur un site, je vais en citer aucun. Je vais en citer un.
Je l'ai fait pour
mais
vous.
Voilà, je vais en citer aucun. Quand vous allez acheter des livres sur les sites, vous avez quand même affaire à une machine. Et il y a des algorithmes. Alors certes, les algorithmes sont efficaces, mais ça ne vaut pas une bonne librairie.
Et pour vous, j'imagine que sur ce genre de site, c'est impossible de faire passer des pépites qui ne sont pas connues, dont le nom ne parle pas, alors que c'est le gros avantage d'un libraire. Quand on entre dans toutes ces institutions, il y a toujours le coup de cœur. Bon, je sais qu'à titre personnel, je vais vite me laisser tenter parce que je fais confiance au choix de mon libraire.
Oui, bien sûr. Le principe du coup de cœur, il y a deux choses qui ont énormément, je schématise, hein, mais il y a deux choses qui ont monté beaucoup en librairie depuis, disons, une dizaine d'années. C'est d'une part la prescription par les coups de cœur, c'est-à-dire la prescription par la mise en avant par un libraire qui va lire un livre et qui va vous le conseiller. Et la deuxième chose, c'est l'animation. Les libraires de ma jeunesse, c'était des gens derrière une table qui vous conseillaient, mais pas toujours, et puis ils ne faisaient pas d'animation. Le libraire d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait tous les jours ou deux fois par semaine une animation avec 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes dans sa librairie ou hors les murs, parce que ça se fait aussi beaucoup.
Vous restez avec nous, hein, Manuel Carcassonne, PDG des éditions Stock. Merci à vous, Mathilde Mola. Je rappelle que vous êtes la cinquième génération de la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
En ce vendredi, depuis le début de cette émission, on parle de la rentrée littéraire et on voit hein, là aussi quand même une bonne nouvelle
bouge,
de cette France bouge. On recommence à lire et cette rentrée littéraire se passe, semble-t-il, plutôt pas trop mal après un été également plutôt sympathique. Et on sait qu'on va passer aussi un bon moment. Pourquoi ? Parce que ce sont les trophées Europe 1. Tous les jours, nos créateurs d'entreprises, femmes ou hommes, osent. On les écoute dans cette France bouge. Et aujourd'hui, un site dédié aux meubles, à la déco, aux objets d'art. Leur point commun, c'est qu'ils sont fabriqués dans un bon endroit, puisqu'ils sont fabriqués en France.
Et bonjour Mathilde Bourges.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de L'Indiscret. Vous avez 29 ans. Alors vous êtes située entre Toulouse et Saint-Géron. Tout est né d'un besoin, il y a un an. C'est souvent comme ça quand on crée un projet, une entreprise. Votre envie, c'était de meubler votre appartement avec des produits français. Vous allez tout nous raconter. Vous savez comment ça marche ?
J'ai 1 minute 30.
Eh bien, vous avez 1 minute 30. C'est parti.
Donc Mathilde Bourges, je suis la fondatrice de L'Indiscret. Donc c'est une boutique en ligne dédiée aux meubles, décorations et arts de la table, fait en France par des artisans. L'idée, l'objectif de L'Indiscret, c'est vraiment de valoriser le savoir-faire français et donc les artisans qu'il y a derrière ce savoir-faire-là. Pour cela, donc, en tant que fondatrice, je vais rencontrer les artisans. Il y a une sélection qui est effectuée, basée sur des critères de qualité, de savoir-faire, d'utilisation de certaines matières premières et également de style. Pour tout vous dire, L'Indiscret, effectivement, c'est parti d'un besoin personnel. Donc il y a un an de ça, bon, ça fait un peu plus, je pense, mais je finissais mes études et du coup j'aménageais dans un appartement. Et j'avais vraiment la volonté de meubler mon appartement avec des meubles du coup faits en France par des artisans et de travailler en circuit court. Et assez naturellement, je suis partie sur Internet du coup et j'ai tapé meubles artisans en France. Et en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'étais déçue. Et donc j'ai décidé de créer L'Indiscret. Donc qui est vraiment une plateforme de mise en relation des artisans et des consommateurs. L'idée, c'est vraiment ça. Je vous invite vraiment à aller découvrir les artisans. Donc, je travaille avec des artisans sur toute la France. Et voilà, vraiment, allez les découvrir. Et ils sont très, très enrichissants.
Eh bien, merci. Bravo déjà pour ce pitch très clair. Alors, c'est la tradition, hein, là aussi, dans cette France bouche, à notre invité principal de revêtir une casquette de coach, d'entrepreneur. Alors, c'est peut-être plus dur pour vous que de choisir finalement le bon livre, mais est-ce que vous pensez que c'est une belle pépite, Manuel Carcassonne, patron des éditions Stock?
Je ne me sens pas complètement compétent là, mais je dirais que je serais ravi, en tout cas, de faire appel à un site qui pourrait m'envoyer chez des artisans français, parce que c'est évidemment pas toujours facile à trouver. Après, je pense qu'il y a un retour de l'artisanat à peu près partout, et comme on a aussi un discours politique sur la relocalisation, vous allez être bientôt très à la mode.
Donc vous êtes sur le bon créneau, vous dit Manuel Carcassonne. Moi, j'avais juste une question. Pourquoi L'Indiscret ? Parce que L'Indiscret, ça ne fait pas penser aux meubles.
Oui, en fait,
ça fait penser à un magazine masculin.
Oui, ah bon, je n'avais pas pensé à ça. Chacun sa version. Non, L'Indiscret, en fait, c'est un meuble historiquement. C'est un fauteuil, en fait, qui a disparu, plus ou moins disparu. En fait, c'était un fauteuil à 3 assises fait pour discuter en trio. Et du coup, je trouvais l'image. Donc déjà, le nom était, à mon sens, intéressant. Mais au-delà de ça, effectivement, ça représente bien la relation que crée L'Indiscret entre le consommateur, les artisans, et L'Indiscret, finalement, entre les deux, qui fait le lien.
Alors vous, votre particularité aussi, c'est que bon, des sites comme ça, ça existe, hein, il y en a, mais vous, les équipes de L'Indiscret, donc de votre entreprise, s'occupent de la livraison. Ce n'est pas le rôle de l'artisan.
Absolument.
Donc c'est bien pour l'artisan, ça aussi.
Tout à fait. En fait, nous, on a vraiment la volonté de travailler, enfin d'aider en fait les artisans aussi, de les accompagner. Donc on travaille la communication, la commercialisation et la livraison. Donc quand un meuble est acheté par un consommateur sur L'Indiscret, c'est L'Indiscret qui va chercher en atelier le meuble et qui le livre chez le consommateur.
Alors, vous disiez que c'est né d'une envie quand vous avez cherché à meubler votre appartement. Quand tout à l'heure, avec Elisabeth Assayag, on a préparé cette interview, on s'est dit c'est super, mais même si on mettait nos deux budgets ensemble, on n'avait pas grand-chose pour se meubler parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu cher ce qu'il y avait sur le site. Est-ce que c'est un problème pour le moment de trouver quelque chose d'abordable, de joli, de bien fait et d'original made in France ?
Effectivement, le Made in France a un prix, ça c'est réel et on pourra rien contre ça, mais je pense qu'effectivement ce prix il est justifié. Donc effectivement, on part avec l'Indiscret en reportage chez les artisans, on filme les artisans en train de travailler et quand on voit le travail qu'il y a derrière, le temps qui est passé, les matières utilisées, etc. En fait, sincèrement, le prix
Mais peut-être qu'il faudrait l'expliquer, le mettre en avant sur
votre
site.
Donc on y travaille avec des reportages effectivement qu'on réalise pour qu'effectivement lorsqu'un consommateur achète, il ait conscience du travail qu'il y a derrière. Et du coup, voilà, le prix, c'est toujours pareil, c'est par rapport à quoi. Et peut-être aussi qu'on a perdu la valeur des choses dans notre société actuelle.
Elisabeth aime bien poser cette question et je trouve qu'elle est très intelligente à chaque fois. De quoi vous avez besoin quand vous vous lancez là ? Vous avez besoin de vous faire connaître ? Vous avez besoin de sous ?
Non, la chose dont j'ai besoin, c'est de me faire connaître, c'est de visibilité, j'ai besoin de faire connaître l'Indiscret. Moi, je travaille tous les jours, je rencontre des artisans, je nourris mon site.
Et vous avez une communauté sur Instagram ?
Qu'on est en train de créer et qu'on est en train de faire évoluer.
Oui, parce qu'il faut le dire, hein, le site existe depuis juin 2020, hein, donc on a une toute jeune entrepreneur. En tout cas, merci à vous Mathilde Bourges. Surtout, donnez-nous de vos nouvelles, ça s'appelle l'Indiscret.
L'Indiscret.fr, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'était
oui, important. C'est l'Indiscret-meuble.fr.
Oui, c'est ça. Parce qu'Elisabeth me disait surtout, pense à bien rappeler le nom exact parce que c'est plus compliqué que ce qu'on croit.
Tout à fait.
Donc, redonnez-le parce que j'ai
marché
sur vous.
C'est l'indiscret-meuble.fr.
Voilà. Et
merci.
Si vous aussi, vous avez une idée de projet, si vous avez envie de le tester en direct sur Europe 1 devant un grand patron, eh bien, c'est très simple. Il suffit de nous écrire sur notre boîte mail. Je vous la redonne. C'est pas plus simple que l'indiscret. C'est e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et vous êtes sur Europe 1. Il est 13h49. Et dans un instant, demain au travail.
Et demain au travail, c'est notre dernier rendez-vous de l'émission Décryptage sur nos nouvelles façons de travailler.
Aujourd'hui, des casques offerts à chaque salarié, mais pas n'importe lesquels. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs, mais pour Elisabeth et moi, chaque jour, on a l'impression que l'émission va trop vite et surtout que l'on découvre chaque jour des pépites toujours plus agréables. Alors, c'est déjà la dernière partie de notre émission. Demain, on travaille. Nous sommes toujours pour le moment avec notre grand patron du jour, Manuel Carcassonne, qui est le patron des éditions Stock.
Et avec vous, Antoine Plantier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO de Sharing Cloud. Vous avez, vous, offert à vos salariés des casques de travail, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des casques pour améliorer leur bien-être. Racontez-nous.
Eh bien, nous, déjà merci pour votre invitation. Nous, Sharing Cloud, on est éditeur français pour la digitalisation des espaces de travail. Et donc, on est très engagé sur effectivement l'amélioration de la qualité de vie au travail, pour nos clients, bien sûr, mais aussi pour nos collaborateurs. Et effectivement, la qualité audio qu'on peut avoir dans un casque, elle est déterminante quand on passe des heures en communication, en visioconférence ou au téléphone, et encore plus en ce moment en période de télétravail massif. Donc effectivement, on a fait le choix d'équiper les collaborateurs de casques Orosound, c'est les casques Tilde, qui sont des casques professionnels anti-bruit, des micro-casques, qui permettent d'avoir une très très bonne qualité d'écoute et de communication. Et je suis en train de l'utiliser là au moment où je vous parle.
Mais en tout cas, le son est parfait, on vous entend très très bien. Est-ce que c'est le confinement qui a accéléré ou qui au minimum a confirmé votre volonté de le faire parce que justement vos collaborateurs étaient en télétravail et du coup utilisaient peut-être des logiciels et des produits qui étaient de moins bonne qualité à leur domicile ?
Alors, dans le cas de Sharing Cloud, nous, on est éditeurs, on était très, très habitués au télétravail déjà. Effectivement, le fait de le renforcer, ça fait que les gens passent beaucoup plus de temps en conférence en ligne. Il y a eu la convergence du confinement et du fait aussi que Orosound a sorti ce casque Tilde très récemment. Et donc, on s'est précipité pour l'essayer et voilà, on regrette pas du tout ce choix.
Comment
on va généraliser l'usage.
Comment ont réagi vos salariés ? Parce que c'est pour leur bien-être, c'est pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que nous vous avons contacté. Comment ont-ils réagi ?
Bah, très bien, c'est-à-dire que même ils ont un peu râlé parce que comme le produit était en lancement, ils n'étaient pas capables de livrer tout de suite, donc on a souffert du succès plutôt qu'autre chose. Mmh. Mais là, ça y est, ça est en train de rentrer dans l'ordre et en termes de disponibilité. Et puis, c'est des gens qui sont très habitués à utiliser ce type de solution, donc ils ont un niveau d'exigence extrêmement élevé. Et des référentiels, des benchmarks très élevés. Mmh. Donc voilà, il y a eu une très très bonne réaction et on a rapidement décidé de généraliser le produit.
Manuel Carcassonne, patron des éditions Stock, comment ça s'est passé vous justement le confinement ? Vous avez mis tout le monde en télétravail. Est-ce que vous avez essayé de mieux les équiper aussi pour qu'ils puissent mieux travailler dans de meilleures conditions ?
Alors, vous avez très gentiment dit plusieurs fois grand patron dans cette émission parce que vous avez l'habitude de recevoir des grands patrons. Stock est quand même une petite boîte. Hein,
oui, bah vous êtes un patron.
Oui, bon. Mais ça
c'est
nous
pas
laisse
le nombre
pas...
de salariés qui fait ça... un grand patron.
Non, mais ça nous laisse pas tout à fait les moyens d'agir là-dessus. Donc oui, on a tous été en télétravail. Personne n'a été en chômage partiel, j'insiste là-dessus, parce que c'est quelque chose d'assez rare dans l'édition. Notre actionnaire, le groupe Hachette, n'a mis personne dans
les maisons.
Qui est
par ailleurs une marque du groupe Lagardère auquel nous appartenons tous.
Merci de préciser. Le groupe Hachette n'a mis personne en chômage partiel dans les équipes d'éditeurs et dans les maisons d'édition. Et je pense qu'il faut vraiment les saluer pour ça, parce que c'était quand même assez courageux. Et donc du coup, on a travaillé en télétravail. Je peux vous dire que ça n'est pas simple.
Pourquoi ?
Bonne question. Ça n'est pas simple parce que dans des maisons d'édition, c'est-à-dire dans des endroits où en fait il se passe pas mal de choses dans le couloir, il se passe pas mal de choses en réunion, il se passe pas mal de choses dans les rencontres et en plus aussi dans la venue
pour
des auteurs,
sur
pour
des
échanger,
livres, sur des contenus.
Et ben le télétravail, je trouve que ça n'est pas le rêve.
En revanche, il a fallu aider certains de vos auteurs par des aides financières pour traverser cette crise.
Alors, aides financières là, pas immédiatement, mais je pense que ça va venir, oui.
Eh bien, on va surveiller tout ça. Un grand merci, Manuel Carcassonne, le PDG des éditions Stock, d'avoir été notre invité. C'est déjà la fin de cette émission.
C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle France Bouge. On va parler de quoi, Emmanuel, lundi ?
Alors, c'est un métier que l'on adore détester, mais bon, ils sont, paraît-il, très utiles. Et on va voir qu'en ce moment, peut-être plus que jamais, on en a besoin. C'est un banquier qui sera notre invité, c'est le patron d'LCL.
À lundi, dans un instant, Christophe Ondelat.